Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Claire Denis est née en 1948 et a passé son enfance en Haute-Volta, l'actuel Burkina Faso, à Djibouti et dans plusieurs régions du Cameroun, se déplaçant au gré des postes que son père, administrateur colonial, occupait. Parmi ses films, plusieurs se déroulent en Afrique et travaillent la question du passé colonial de la France. Son tout premier, sorti en 1988, Chocolat, était ainsi nourri de ses souvenirs d'enfance. Dans la foulée, elle avait réalisé Man No Run, un documentaire sur la tournée de musiciens camerounais, Les Têtes Brûlées. En 1999, Beau Travail mettait en scène un groupe de la Légion étrangère en poste à Djibouti. Et en 2010, enfin, White Material racontait 36 heures de la vie d'une femme s'obstinant à poursuivre la récolte du café dans un pays d'Afrique en proie à la guerre civile. Mais il faudrait citer aussi « S'en fout la mort », « J'ai pas sommeil » ou encore « 35 rums » qui tous travaillent aussi, à leur façon, les fantômes coloniaux de la France. En 2002, Claire Denis accordait une série d'entretiens à Thierry Jousse pour A Voix Nue. Leur dialogue s'ouvrait par une évocation de l'enfance africaine de la réalisatrice. A Voix Nue, Claire Denis au micro de Thierry Jousse, premier volet diffusé pour la première fois le 13 mai 2002.
Claire Denis, bonjour. On est là pour 5 jours, 5 entretiens pour A Voix Nue. Claire Denis, vous avez réalisé un peu plus de 10 films, tout genre et tout format confondu, parmi lesquels on peut citer au hasard, si on peut dire, Chocolat, Jacques Rivette le Veilleur, Man No Run, S'en fout la mort, Nénette et Bonnie, J'ai pas sommeil, US Go Home, Trouble Every Day, et prochainement Vendredi Soir. Je voulais commencer cette série d'entretiens avec vous pour en parlant d'un sujet qui va vous faire remonter un peu à, je pense, à l'origine, un peu à votre origine, si on peut dire, et aussi à votre origine cinématographique. C'est l'Afrique qui joue quand même un rôle assez important, j'ai l'impression, dans votre monde intérieur et extérieur. Je voulais un peu savoir quels souvenirs vous gardiez de cette période d'enfance en Afrique. D'ailleurs, je ne sais pas exactement dans quel pays, parce qu'on dit l'Afrique, mais l'Afrique c'est un continent, mais il y a des pays qui sont sans doute beaucoup plus singularisés dans ce continent.
Oui, c'est vrai que l'Afrique, ça rend encore plus métaphorique l'enfance ailleurs, quoi, parce que c'est un continent, mais c'est pas seulement un continent qu'on imagine d'une manière géographique, mais on l'imagine presque d'une manière métaphorique, un peu quand on dit l'Afrique, comme conradienne, quoi. Le continent noir, on disait quand j'étais petite. Et déjà, si on dit le continent noir, c'est déjà un continent sombre, donc... Je me représentais ça quand j'étais petite à l'école et qu'on apprenait ces mots, le continent noir. Et je me disais, moi, c'est drôle, j'ai vécu dans un pays pas noir du tout, où il y avait un rapport si lumineux avec les couleurs que je... Mais je sentais aussi, ou plutôt je l'ai compris des années après, quand j'ai lu un livre de Toni Morrison, que les mots sombres, les mots noirs, les mots obscurs... On envahit pour toujours l'imaginaire des Blancs quand il s'agit des êtres humains nés sur ce fameux continent noir, c'est-à-dire ceux qui ont la peau sombre. Alors, je ne citais pas Conrad pour rien, parce que ce continent noir, on dit que c'est peut-être le récit qui vient tout de suite à la mémoire, c'est le cœur des ténèbres. Et s'enfoncer dans le fleuve Congo, c'est aller au cœur des ténèbres. Moi, j'ai jamais eu... C'est une impression... Après, quand je vivais en France et que je lisais, et que je découvrais la littérature, et que je vivais en France, que je voyais dans la perspective cette image du continent noir. Moi, j'avais... au fond, l'impression d'avoir eu probablement une chance, je sais pas. comment, si j'avais fait une psychanalyse, je pourrais l'expliquer, mais j'ai le sentiment que de vivre en tant que petite Française, avec ma famille, en allant dans des écoles françaises, parce que je vivais dans une Afrique francophone, c'est-à-dire grosso modo l'Afrique de l'Ouest et très peu l'Afrique de l'Est, mais l'Afrique francophone. Et donc, je me sentais pas finalement tellement étrangère. J'avais plutôt l'impression que j'avais la chance, mais ça c'est peut-être aussi mon père était un homme très jeune et qui adorait le métier qu'il faisait, donc de parcourir des territoires et que c'était comme quelque chose en plus. J'appartenais à ce pays, la France, que je connaissais pas. Et donc j'avais la chance de parcourir des territoires où je me rendais bien compte que c'était beau, même si c'était pas même le beau d'un adulte, mais c'était des territoires qui me plaisaient. Je les parcourais avec un sentiment un peu aventurier, parce que il y avait des endroits sans route, donc parfois je les parcourais à cheval devant mon père, il me mettait devant lui sur sa selle, ou dans des jeeps, enfin, donc c'était toujours un petit peu une vie ni vraiment aventurière, ni vraiment héroïque, mais je sentais bien que c'était quelque chose que, quand de temps en temps je rentrais en France et je voyais mes cousins, que je pouvais même pas leur en parler, parce que je trouvais qu'ils étaient, pourraient même pas comprendre. Et c'était quelque chose qui m'était très précieux et dont j'étais fière. Puis j'étais fière aussi de voir que je vivais dans un monde où il y avait plusieurs langues. Mon père parlait plusieurs langues. Il parlait peul, il parlait une des langues importantes dans les pays où on vivait, parce qu'on était itinérants. Donc j'avais l'impression que j'avais pas de nid, j'avais pas de maison attitrée, mais par contre j'avais du territoire, des langues, des sonorités. Enfin, je sais pas, j'avais une impression très, très forte d'être pas comme mes cousins, voilà, mais d'être mieux, enfin d'avoir plus de chance qu'eux. Après, un petit peu plus tard, je me suis souvenu que j'avais plein de souvenirs aussi plus complexes, qui étaient que les gens avec qui j'avais grandi étaient des employés ou parfois des domestiques, et que même petite, même si j'étais élevée par des parents curieux, je crois qu'il y avait quelque chose de non dit qui n'était pas une supériorité raciale. Je pense que mon père m'aurait, pour une fois, vraiment foutu des baffes, quoi. Mais donc ça ne pouvait pas naître dans ma famille, cette idée-là. Mais quelque chose comme... par exemple, c'est pas de la supériorité, mais c'est un truc peut-être un petit peu ambigu qu'on trouve dans la littérature chez Ibsen. C'est pas vraiment la classe. C'est le... Comment dire ? Si j'étais gardée le soir, mes parents n'étaient pas là et que j'allais dîner à la cuisine avec le cuisinier, je crois que très petite, j'avais le sentiment que je pouvais l'emmerder. Et que... je sentais qu'il n'était pas pensable qu'il me flanque une torgnole. Et je savais que j'avais ce petit pouvoir-là d'emmerder des gens en toute impunité. C'était un peu pervers. Je pense que si j'en avais parlé à mes parents, ils m'auraient fichu un coup de pied au derrière, mais pourtant ça existait. Que quand j'arrivais dans l'école, les assistants à l'école primaire, les assistants des maîtresses, ou tout ça, des jeunes hommes ou des jeunes filles. Là, c'est des souvenirs du Cameroun. Je sentais que, en plus, la guerre d'Algérie, on en parlait, donc il y avait. Je savais que je ne pouvais pas ignorer que l'indépendance. Enfin, mon père me parlait de l'indépendance. Et donc, je pouvais lire dans leurs yeux, il n'y avait pas. Il n'y avait pas cette fraternité absolue, magique, de la petite main blanche qui vient saisir la main noire et tout ça. Tous ces clichés, non, il y avait beaucoup de perversité. Et cette perversité, elle était évacuée parce qu'il y avait, dans les territoires de l'Afrique noire, comme on disait, la guerre d'Algérie, elle avait des échos très forts, et donc, il suffisait d'être pour l'indépendance de l'Algérie, pour l'indépendance des États africains, pour se sentir déjà bien. Et pourtant, non, c'était pas suffisant. Il y avait quelque chose d'un au-delà, et c'est ça que j'appelle la perversité. Ça suffisait pas d'être politiquement correct. Quelque chose était fait pour toujours, qui était la colonisation. Avec peut-être aujourd'hui, je sens bien que beaucoup de gens disent « De toute façon, on ne peut pas la nier en bloc, puisqu'elle a existé. » Mais au fond, c'est quelque chose dont j'ai ressenti le goût des années après. Comme quelque chose d'extrêmement douloureux et de tordu dans mes souvenirs d'enfant. Vraiment. Je me souviens, il y avait des émeutes à Yaoundé quand j'allais à l'école, des émeutes pour l'indépendance. Et je voyais les émeutiers passer avec des pierres et couverts de poussière. Et ils avaient marché pendant des heures, donc ils avaient bu du vin de palme, ils avaient les yeux enflammés. Et j'avais pas besoin qu'on m'explique quoi que ce soit pour savoir que j'avais peur qu'ils me voient. Mais j'avais pas peur juste des émeutiers. J'avais peur qu'ils me voient, petite Française, allant à l'école avec son cartable, sa petite robe et tout ça. Voilà.
Est-ce que quand vous êtes rentré, justement quand vous êtes revenu en France, sur le continent européen, vous parliez de la guerre d'Algérie, est-ce que ça a changé quelque chose de revenir ici? Et est-ce que ça a coïncider avec une sorte de prise de conscience politique un peu plus affirmée, un peu plus nette. Peut-être, je ne sais pas si vous avez lu à cette époque des auteurs, enfin quelqu'un comme Frantz Fanon, qui a joué, je pense, un rôle assez important comme inspirateur de tous ces mouvements. Est-ce que ça a changé justement quelque chose et que ça a coïncidé avec une prise de conscience politique plus affirmée?
En fait, non, je dirais, ou alors une prise de conscience politique très particulière à des souvenirs de coloniaux, entre guillemets. C'est-à-dire que j'avais connu à Yaoundé, avant de quitter donc l'Afrique pour revenir en France, donc au Cameroun, une photographe qui faisait des livres pour enfants. Et qui venait faire des photos au Cameroun, et dans une partie du Cameroun que mon père connaissait très bien. Donc mon père lui servait de guide, et elle habitait chez nous. Elle s'appelle, j'espère toujours, Dominique Darbois, bien que j'ai plus de nouvelles d'elle. Mais cette femme était une héroïne pour moi, parce qu'elle avait un petit numéro écrit sur son poignet. Elle était sortie des camps de concentration. Elle avait été là-bas très jeune fille, et quand elle me racontait ça, enfin elle n'en parlait pas beaucoup, mais elle en parlait un peu, de ce petit numéro. On vivait dans un pays chaud, donc on le voyait tout le temps, ce petit numéro, parce qu'on n'avait pas de manche. Et donc c'est la première fois que j'ai compris vraiment, parce que mes parents m'avaient un peu parlé de ça, mais tout d'un coup ça devenait... J'avais l'impression que c'était pas de l'histoire ancienne, c'était venu là un peu dans ma vie. Et que ça pouvait venir jusque-là, jusqu'au Cameroun. C'était pas réservé à cette Europe froide et moche que j'aimais pas. Bon. Et cette femme, oui, j'ai eu une forme d'admiration, d'envie de lui ressembler. J'avais envie d'être comme elle, photographe, d'être une femme seule, indépendante. J'admirais tout d'elle. Et elle devait le sentir, parce qu'elle me racontait beaucoup de choses. Et notamment, j'ai appris, je l'ai surtout appris quand je suis rentrée en France, qu'elle était, je crois, dans le groupe Francis Janson, et qu'elle était ce qu'on appelle une porteuse de valises. Et donc, un jour, on a lu dans le journal qu'elle était en prison. Elle a été arrêtée. Et après, on a eu beaucoup de mal à reprendre contact avec elle. Je crois qu'elle est allée vivre en Algérie un temps. Mais enfin, tout d'un coup, moi, j'ai plus jamais pu la retrouver. Bon, c'était un premier modèle pour moi, voilà. Mais par contre, quand vers 67, par là, 68, je me sentais pas... J'avais l'impression que j'étais en retard, j'étais un espèce de dinosaure. Parce que moi, j'étais restée dans ces conflits-là qui n'étaient pas éteints pour moi. Parce que j'avais l'impression que la guerre du Vietnam, même je la voyais pas comme mes amis de lycée, je la voyais comme quelque chose que j'avais connu autrement avant. Donc je me sentais pas mobilisable de la même manière. Et puis, il y avait des amis de lycée à moi, enfin des amis de classe ou même d'école primaire à moi qui étaient revenus en France, et je savais qu'ils étaient à l'OAS. C'est des petits garçons avec qui j'avais appris à lire et à écrire à Djibouti, justement. Et que j'aimais beaucoup. Et l'un de ces garçons, peut-être même dont j'étais un peu amoureuse, a participé à l'attentat de Marne-la-Coquette où il y a eu un mort. Et donc dans la nuit, j'ai appris que les anciens coloniaux, même des gens pas du tout convaincus d'être OAS, avaient aidé le père de ce garçon à le faire passer en Suisse. Et toute la nuit, j'étais éveillée en me demandant comment c'était possible, quoi. Son père était pilote, compagnon de De Gaulle, donc ça avait paru normal que le fils, qu'on le mette dans une voiture la nuit et qu'il aille en Suisse. Et moi, pendant très longtemps... Alors, en fait, j'étais décalée par rapport aux lycéens. Parce que j'étais dans ce monde-là, et je n'en parlais pas. J'avais l'impression qu'on allait me prendre pour une folle. Je parlais jamais du reste d'avoir grandi en Afrique. Tout ça me paraissait... J'avais l'impression d'être archaïque. Vous savez, comme on peut dire... J'avais l'impression d'être une provinciale. Et j'en avais un peu honte. Mais c'était au-delà de ça. J'avais l'impression d'être... presque d'un siècle. Pas du même siècle.
Et ensuite, quand vous êtes devenu adulte, disons, comment vous perceviez cette Afrique, je ne sais pas si vous y retourniez régulièrement ou si quel rapport vous entreteniez avec ce continent d'enfance.
Bah, la difficulté pour moi, c'était de garder des rapports non touristiques. C'est-à-dire de garder des rapports avec des gens et de proscrire pour toujours dans ma tête l'idée d'un territoire touristique, spectaculaire. Donc j'essayais toujours d'avoir des rapports avec des amis africains, de jamais aller touristiquement, et donc bah, ça coûtait un peu cher, donc parfois j'avais la possibilité de faire des petits sauts de puce chez des amis. Moi, j'avais quelques amis camerounais. Et puis, en fait, j'ai trouvé à Paris j'avais une amie camerounaise à Paris qui m'a présenté un jeune écrivain camerounais qui s'appelle Blaise Njoya, qui était un fou de Chester Himes. Alors on a... Bon, cette relation était finalement très bien pour moi. J'aimais accompagner un peu l'écriture de Blaise. Et puis, j'allais dîner le soir dans des restaurants camerounais avec lui. Et puis, je suivais son travail d'écrivain. Et c'était presque mieux que des voyages pour moi. Enfin oui, même certainement beaucoup mieux. Ce qui fait que ça m'a permis d'envisager comme possible le scénario de Chocolat. Parce que c'est pas mon premier scénario, j'avais essayé. Je voulais surtout pas rentrer avec un film comme ça dans l'idée de faire un film. Et puis finalement, je crois que c'est Blaise qui m'a apaisé avec ça, en me disant que je pouvais toujours tenter et que j'étais pas obligée de filmer des gens à cheval avec des chemises blanches et les splendides collines autour du lac Victoria, enfin qu'il y avait peut-être une côte autrement, voilà. Et il m'a même poussé à le faire, en fait. Donc voilà, j'ai... Mais c'était là, voilà, c'est les relations, j'en avais un petit peu peur. J'avais un peu peur d'être trop niaise, parce que j'avais quand même entre-temps découvert que ma vie n'aurait pas d'autre sens, c'est un bien grand mot, mais que voilà, le cinéma était là et que j'allais pas mettre le cinéma au service d'une nostalgie africaine. Mais c'est pas comme... J'ai pas envie de retourner en Afrique, de retourner en Afrique comme on rentre à la maison. Parce que je crois que ça... j'ai toujours su que c'était pas ma maison. C'était... Peut-être, si vous voulez, j'ai connu quelque chose qui n'est pas l'implantation des colons. C'est-à-dire, mon père était un fonctionnaire, donc je savais que j'étais de passage. Et j'ai pas perdu ma terre. Je savais qu'elle n'était pas à moi. J'ai pas perdu un champ d'oranger. Ma mère plantait des fleurs dans le jardin, mais on y restait que 2 ans. Parfois, elle plantait des arbres, mais on les verrait pas. Et donc, rien nous appartenait, ni les meubles, ni les murs, ni... C'était ce qu'on appelait des cases de passage. Donc, encore aujourd'hui, j'ai du mal à avoir une maison, du reste. Mais l'Afrique, pour moi, c'est pas la maison. Une fois, j'ai lu un papier dans Libé, il y a longtemps. Quand j'ai fait Chocolat, un type qui a écrit dans la page Rebond, un universitaire. Apparemment, j'ai compris entre les lignes qu'il avait grandi, un peu comme moi, en Afrique. Et le titre du papier, c'était une pleine page, c'était « Dans le ventre de la nounou cosmique ». Alors déjà, le titre m'a fait sursauter parce que j'avais l'impression de comprendre quelque... J'avais pas encore lu l'article. Puis donc, il parlait de chocolat. Et il disait que il savait que quelques-uns, ceux qui avaient grandi en Afrique, avaient toujours ce regret de d'avoir approché le ventre de la nounou cosmique. Mais là, il parlait du continent. Ce continent-là, ce continent mystérieux. Et mystérieux parce qu'on a voulu qu'il soit mystérieux.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 13 mai 2002. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ».